Yves Lenoir, bonjour. Un point sur la situation actuelle ?
La situation actuelle paraît stabilisée. Hein. Les incendies ont été éteints et d'ailleurs les pompiers ont été largement aidés par la pluie. Et maintenant, eh bien, la place est aux réactions diverses et variées dans les associations, mais aussi il y a des réactions politiques au niveau du Parlement européen dont je viens d'entendre le communiqué.
Et que dit ce communiqué ?
Il pose la question au gouvernement ukrainien de sa gestion de l'affaire comme si c'était gravissime.
Alors qu'on le rappelle, rien d'alarmant ?
Bien sûr, c'est pas vraiment alarmant, même pas du tout, mais le problème, c'est que l'alarme a été sonnée et que les associations et les médias ont amplifié le bruit autour de ces incendies. Il faudrait expliquer ce qu'ont de spécifique des incendies dans la zone d'exclusion de Tchernobyl et de mettre ça en rapport avec ce qui s'est passé le 26 avril et les jours suivants 1986, après que la centrale a explosé. Parce que dans l'imagerie, disons, populaire, ces incendies sont traités d'une façon assez tendancieuse qui vise à ce que les gens fassent une association d'idées entre le terrible incendie de la centrale qui, après l'explosion, a duré 10 jours et a envoyé dans l'environnement des quantités colossales de radioéléments et des incendies dans la zone d'exclusion de Tchernobyl qui a reçu, évidemment, une quantité de radioactivité importante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les incendies ne libèrent qu'une infime partie de cette radioactivité déposée par les retombées de l'accident lui-même il y a maintenant 34 ans. Alors au bout de 30 ans, si on suppose que rien ne s'est décomposé, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais comme ça on a un calcul par excès et on ne peut pas être accusé de minimiser les choses, au bout de 30 ans, vous avez en gros 1,5% du césium qui est dans le sol, qui se trouve dans les parties aériennes, dans la litière, dans l'aubier et dans les rameaux. Et quand il y a un incendie, eh bien une partie du césium en question, mais pas toute, part dans les fumées, l'autre restant dans les cendres. Et c'est cette quantité de césium que le vent emporte et distribue en fonction de la météorologie et de ses variations. C'est ce qui s'est produit ce printemps. Ça s'est produit pour la première fois, je crois, d'une façon vraiment importante, en 1992. C'est bien un phénomène récurrent qui a lieu chaque année. Il y a d'autres incendies autour de la zone d'exclusion. Preuve en est qu'un village a brûlé et qu'il y a 500 habitants qui sont sans domicile, alors qu'ils n'habitent évidemment pas dans la zone d'exclusion. Alors maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est quels sont les risques que ces incendies provoquent. Le principal risque est pour les pompiers qu'on envoie sur le terrain. Il y a eu des chiffres partiels sur les doses de radiation qu'ils subissaient. Et à partir de là, j'ai pu déduire assez facilement, parce que tout ça se trouve dans la littérature scientifique, la quantité de césium que eux respiraient dans l'air au voisinage immédiat des foyers. Et cette quantité de césium, absorbée par les poumons, c'est-à-dire instantané, va se fixer dans les cellules, puis sera progressivement illuminée au fil des mois qui suivent. Un pompier qui aura été exposé au maximum de la contamination mesurée aura engagé une dose. Cette dose va être délivrée progressivement par césium incorporé jusqu'à son élimination totale, qui est de l'ordre de 0,5 millisieverts. Sachant que chaque année, la radioactivité naturelle en dehors de la zone interdite est de l'ordre de 1 millisievert. Donc, les pompiers ont pris des doses, c'est évident, avec un maximum sans doute de l'ordre de 0,5 à 0,6 millisieverts, si on tient compte de l'irradiation directe quand ils sont sur place, indépendamment du césium absorbé. Et c'est ça le maximum du risque, pas plus. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les villes qui sont autour, dont la grande ville de Kiev, qui est à une centaine de kilomètres au sud, et qui a reçu, à un moment donné, des fumées de tous ces incendies quand le vent a tourné au nord. Alors, il se trouve, et c'est une chance, parce que ça me permet de ne pas engager à la légère ce que je vais raconter, il se trouve qu'il y a une simulation qui a été faite à partir des données d'émission de l'incendie de la forêt et de la météorologie. Cette simulation a été faite par l'Institut de recherche et de sûreté nucléaire, l'IRSN, avec un modèle qui avait déjà servi, peu après, quelques années après Tchernobyl, pour reconstituer le trajet des nuages de Tchernobyl. Alors vous imaginez une espèce de film, et vous avez des taches de couleur, depuis le jaune jusqu'au marron, qui, par classe de contamination de l'air, vous montrent comment le nuage se répand et quelle est à chaque instant ou chaque heure la densité de radioactivité à tel endroit au niveau du sol, disons à 2 mètres, là où les gens restent. Alors, à l'époque de Tchernobyl, le nuage de Tchernobyl, reconstitué ainsi, avait une échelle maximale, c'était donc le marron foncé, de 1000 becquerels par mètre cube de césium. 1000 et au-dessus. ça pouvait même gérer au noir, tout proche de la centrale, parce que là, on avait beaucoup plus que 1000 becquerels par mètre cube d'air pendant l'accident. Pour l'incendie de forêt qui vient d'avoir lieu, la zone marron, les taches marron dans le nuage, ça correspond à 500 microbecquerels par mètre cube, c'est-à-dire 2 millions de fois moins. Et cette manière de représenter les choses nous montre les deux niveaux de risque qu'on peut associer aux deux épisodes. Dans un cas, il fallait, pour représenter le phénomène, des taches marron qui signifiaient qu'il y avait 1000 becquerels par mètre cube, alors que dans l'épisode récent d'un incendie, si on veut représenter le phénomène d'une façon correcte, eh bien, les taches marron, c'est-à-dire le maximum de la concentration dans l'air, c'est 500 microbecquerels par mètre cube, sauf évidemment au voisinage des foyers. Mais ça, on ne peut pas le voir avec la résolution de l'espèce d'annulation qui couvre en fait une grande partie de l'Europe. Voilà donc factuellement comment les choses se passent sur le plan biologique et ensuite au moment de l'incendie, c'est-à-dire la physique de l'incendie, la libération et la remise en suspension dans l'air d'une certaine quantité de césium, plus le rôle du vent. Et ensuite, sachant cela, comme élément de comparaison, quel était le risque ou la menace pouvait chiffrer dans une reconstitution de du cheminement des nuages sur toute l'Europe en 1986 et l'équivalent aujourd'hui pour les incendies. Donc il y a un rapport de 2 millions minimum, ce qui veut dire que ce qui était mesurable dans l'air à l'époque, facilement mesurable, ne l'est plus aujourd'hui. Or le nuage, il n'est que quelques heures à passer. Donc vous ne pouvez même pas avoir une idée de la contamination de l'air qui passe, par exemple à Kiev. Vous avez de la fumée et vous ne mesurez pas de radioactivité. C'est un trou peu. Et ça, il faut bien le comprendre. On s'alarme alors qu'on n'a pas de mesure. Parce qu'on n'a pas de mesure parce qu'on ne peut pas mesurer. Et franchement, quand je vois ça, je me pose des questions sur les intentions des gens qui font croire au public que cet incendie, c'est vraiment quelque chose de terrible.
Et oui, puis d'autres facteurs peuvent jouer aussi sur ces taux-là.
Ah non, c'est tout. On ne peut pas avoir plus de radioactivité. Hein, ça, c'est ce qui circule. Et bon, vous savez que je suis président de l'association enfants de Tchernobyl Belarus et que nous travaillons avec l'Institut de radioprotection indépendant Belarab de Minsk, qui a des correspondants et qui intervient sur le terrain en bordure de la zone d'exclusion, dans le district de Bradin et dans d'autres districts plus à l'ouest de cette zone d'exclusion. Et lui, il ne réagit même pas. Pour lui, c'est peanuts, c'est rien du tout. Compte tenu que les enfants qu'il mesure, eux, ils ont dans l'organisme, en moyenne, en dehors des accidents de contamination qui peuvent survenir du fait d'imprudence, à cause de la nourriture qu'ils mangent dans leur région, parce que c'est des régions pauvres où les gens vont chercher des champignons et des baies et du gibier en forêt, ils ont en moyenne, quand il n'y a pas d'accident, hein, c'est vraiment le régime permanent, de 20 à 30 becquerels par kilo de césium dans l'organisme, ce qui veut dire qu'ils mangent chaque jour aux environs de 15 à 20 becquerels de césium. Et on est en train de parler de micro-becquerels rejetés par le nuage qui passent quelques heures, et en quelques heures, qu'est-ce qu'un enfant va respirer? Quelques centaines de litres d'air. Par quelques centaines de litres d'air multipliés par quelques micro-becquerels de césium, ça reste absolument, mais même pas infime. Ça n'a aucune signification sanitaire. Aucune. Et ça, il faut vraiment le dire avec force, parce que tout le monde a l'air de croire que ça se rajoute d'une façon terrible aux conséquences de l'accident lui-même. Mais les conséquences de l'accident lui-même, les gens dans les zones contaminées de Belarus ou d'Ukraine le vivent tous les jours et à des doses qui sont des millions de fois plus grandes que ce que vient de rejeter pendant quelques heures cet incendie. Et ce sont des quantités de césium qui sont là en permanence. Elles sont dans le sol, elles passent dans leur nourriture. C'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit, parce que sinon, on se trompe de problème. Le vrai problème, c'est l'effet sur la santé de ces générations, maintenant on en est à la troisième, qui vivent en permanence en eux des doses de radioactivité artificielle qu'ils ingèrent dans la nourriture. Le fait que le Parlement européen est embrayé, ça montre que ces organisations, ces associations ont de l'influence, et qu'un événement qui est un non-événement entraîne une réaction politique internationale au Parlement européen. On a là l'image d'un enchaînement assez diabolique qui met l'intérêt que trouvent certaines organisations à réagir et donc à attirer l'attention du public lorsque on a ce genre d'événement, sans avoir réellement fourni au public l'information qui lui permet de mesurer, de juger de l'importance de cet événement. Et ça, je trouve que c'est extrêmement regrettable.
Merci beaucoup Yves.
Merci de m'avoir écouté si longtemps.